Maintenant que nous avons vu l'importance de la vie des patriarches pour nous-mêmes à notre époque, voyons quelles leçons ils nous donnent, ou plutôt quelles leçons Dieu nous donne à travers eux. Nous avons vu la dernière fois, avec Noé et l'Arche, que les divisions faisaient partie de la vie de l'Église et que c'est l'état normal de l'Église. Nous voyons maintenant Abraham. Après le déluge, les hommes ont hélas très vite abandonné la foi de Dieu. Ils sont devenus polythéistes, idolâtres, et au lieu de profiter de la leçon du déluge et de s'occuper de Dieu seul, comme le font par exemple les carmélites, ils se sont englués dans les biens d'ici-bas, dans les richesses, dans les réalisations orgueilleuses. Nous avons vu cela avec la tour de Babel. Vous me direz que les carmélites sont quelque chose de très spécial, qu'on ne peut pas les présenter comme la vie normale d'un chrétien. Je ne pense pas. L'extérieur de la vie des carmélites, évidemment, n'est pas pour tout le monde, mais leur vie intérieure, leur union constante à Dieu. Saint Louis, roi de France, n'avait pas grand-chose de commun avec l'extérieur des carmélites, mais il avait tout en commun avec leur vie intérieure. La civilisation chaldéenne va se développer d'une façon extraordinaire et merveilleuse. Merveilleuse ne veut pas dire belle, mais qui suscite l'étonnement. Les Chaldéens avaient la connaissance du ciel et des étoiles. On sait beaucoup de choses sur eux parce que on a retrouvé les tablettes d'argile écrites avec de l'écriture cunéiforme, et cette écriture en poinçon permet de mettre beaucoup de choses sur une simple tablette. On a retrouvé des bibliothèques entières que l'on sait déchiffrer depuis le milieu du 19e et que maintenant on déchiffre assez aisément, et qui toutes nous font part d'une civilisation matériellement élaborée. Par exemple, la prévision des éclipses de lune et du soleil, qui, en France, sont le domaine des polytechniciens, car c'est très difficile. Eh bien, les Chaldéens connaissaient cela. Leur art montre une grande maîtrise du travail des métaux. L'agriculture était très développée, avec un système de canaux d'irrigation qui faisait de cette région une région très fertile. Maintenant, elle est devenue un désert parce que justement, on a abandonné tout cela. C'était l'âge du bronze, car vous savez que l'âge du bronze a précédé l'âge du fer. Pour faire du bronze, il faut du cuivre et de l'étain. Il n'y avait pas d'étain dans cette région. Ils allaient chercher l'étain soit en Irlande, soit au centre de l'Afrique. Les maisons avaient deux étages, avec une pièce de réception dont les portes étaient plus grandes que les autres pièces, une cuisine, une chapelle dans laquelle, hélas, il y avait le culte des faux dieux, des statuettes de faux dieux, deux étages avec un escalier et, sous l'escalier, les toilettes. La plupart des fermes en France, il y a encore 70 ans, avaient les toilettes à l'extérieur. Abraham est le seul à se préoccuper de Dieu dans ce monde païen et matérialiste, et Dieu veut en faire le père de tous les croyants. Alors il se trouve que aujourd'hui des musulmans s'appellent croyants, que des juifs s'appellent croyants, de même que des catholiques. Dans le plan de Dieu, évidemment, il ne s'agissait pas d'en faire le père des musulmans, des juifs et des chrétiens, il n'y a qu'une seule religion. Donc Abraham est le père de ceux qui ont la foi en Dieu unique et la foi particulièrement en Jésus-Christ. Puisque rappelez-vous, notre Seigneur dit que Abraham a vu le jour du Christ, c'est-à-dire qu'il a connu le Christ en vision. Dieu, plusieurs fois dans l'Écriture sainte, s'intitule le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et l'Église cite Abraham trois fois par jour au cantique de Benedictus à l'Aude, à Vêpres au cantique du Magnificat, cité par la Sainte Vierge donc, et dans le canon de la Messe. C'est vous dire l'importance de cet homme. Dieu donc veut en faire le père du peuple chrétien. Que va-t-il faire pour cela? Va-t-il lui dire de christianiser la civilisation dans laquelle il se trouve? Va-t-il lui dire de faire de l'entrisme, c'est-à-dire de s'infiltrer pour essayer de faire évoluer les choses petit à petit de l'intérieur? Non, il lui dit « Sors, sors de ton pays, quitte ta famille et marche en ma présence. » Rappelez-vous, mes bien chers frères, ce que nous avons dit au début, Abraham et les patriarches sont un phare pour les âmes égarées. Cette consigne donnée par Dieu à Abraham, « Sors et marche en ma présence », voilà un véritable phare. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Il ne s'agit pas seulement de se protéger d'un monde mauvais, car une protection sans idéal serait très dangereuse. C'est ce qu'on voit aujourd'hui chez certains chrétiens qui croient protéger les enfants et qui ne se rendent pas compte que s'il n'y a pas un idéal très élevé, cette protection ne sert à rien. En effet, il ne suffit pas de quitter le monde, hein, quitter sa famille et son pays, c'est quitter le monde. Il ne suffit pas de quitter le monde, il faut marcher en la présence de Dieu. Mais quand nous marchons en la présence de Dieu, nous nous rendons bien compte que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, c'est ce que dit notre Seigneur à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mon Père ne manquerait pas d'envoyer 12 légions d'anges pour me délivrer de tes mains. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. » C'est exactement ce que Dieu dit à Abraham. Mon royaume n'est pas dans cette civilisation matérialiste et orgueilleuse. Et c'est justement pour cela que Dieu permet aujourd'hui que nous soyons dans une fausse civilisation, parce que ça n'est même plus une civilisation. Ce que les gens appellent de l'intelligence artificielle, ce ne sont que des algorithmes mathématiques pondus par une machine. Ça n'est même pas les canaux d'irrigation des Chaldéens, et notre littérature est en dessous de la leur, qui pourtant n'avait pas beaucoup d'élévation. Quoique étant assez parfaite, disons assez élaborée. Donc à nous de découvrir que Dieu nous dit comme à Abraham, « Sors de ce monde, ne l'aime pas, ne t'agglutine pas à ce monde, ne te colle pas à lui, ne t'implique pas en lui, et marche en ma présence. » Vous me direz, mais il faut faire de l'apostolat. Et pour cela, être proche du monde. La réponse, c'est que Dieu nous demande de quitter le monde, justement pour que nous entraînions avec nous le monde dans le royaume de Dieu. Abraham avait suscité plusieurs conversions, peut-être même de nombreuses conversions autour de lui, et tous ces gens convertis le suivirent dans l'Exode. Donc lorsque Dieu dit à Abraham « Quitte ta famille et ton pays », il ne dit pas « Méprise tous les autres hommes et je ferai de toi le meilleur, le plus grand, le plus beau et le plus orgueilleux ». Il dit « Quitte ce monde que je méprise, qui ne m'intéresse pas, leur tour de Babel ne m'impressionne pas du tout, leur riche construction, leur riche culture et tout cela, cela ne m'intéresse pas ». Il dit « Quitte ce monde et marche en ma présence avec tous ceux que tu attireras justement avec toi à marcher en ma présence. » On pourrait le dire d'une autre manière. Il s'agit pour le chrétien d'être proche du monde, c'est-à-dire proche de ses aspirations les plus élevées que Dieu a mises nécessairement dans le cœur de tout homme, et évidemment d'être loin des aspirations les plus basses, les aspirations de la sensibilité, de la sensualité, des richesses. Nous sommes en contact, en rapport avec un professeur de philosophie dans les lycées d'État, et le père Marcel Delacroix lui a dit qu'il aimerait bien discuter, s'entretenir avec lui pour savoir comment répondre aux problèmes de la jeunesse moderne. La réponse de ce professeur est celle-ci. Il faut tout d'abord donner aux élèves la vérité, car ils sont faits pour la vérité, ils le savent et ils méprisent ceux qui ne la leur donnent pas. La première estime à avoir des élèves, c'est de leur donner la vérité. Voici très exactement ce qu'il dit. J'ai remarqué que beaucoup d'entre eux apprécient qu'on s'adresse à leur intelligence, car ils ont l'habitude d'être pris pour des idiots, et ça les change. Ils sont très attachés à la justice, voyez, après la vérité et la justice. Je crois qu'un catéchisme pour jeunes ou pour enfants doit particulièrement mettre l'accent sur ce qui revient à la justice de Dieu, sans oublier bien sûr la charité. Car non seulement cela leur parlera, mais cela les marquera à vie, même si plus tard ils s'en éloignent un temps plus ou moins long. C'est exactement ce que nous disait Mgr Lefèvre. Même s'ils s'en éloignent un temps plus ou moins long, cela les marquera à vie. Et donc, lorsque Dieu dit à Abraham « Quitte ton pays et ta famille », il ne lui dit pas « Méprise tous ces gens », il lui dit « Montre-leur que la vérité est ailleurs, que le bonheur est ailleurs, que la vraie vie est ailleurs, que la justice est ailleurs. » Or, l'Église moderne, c'est exactement l'inverse. Vous voyez la liturgie, par exemple. La liturgie traditionnelle, le prêtre est tourné vers Dieu, tous les fidèles sont tournés vers Dieu. Dans la liturgie traditionnelle, on ne prête pas attention aux fidèles, on prête attention à Dieu. Pour arriver à cela, bien sûr, il faut faire le catéchisme, il faut donner ou rendre le goût de Dieu, et quand on a fait ce travail de faire sortir les gens du monde matérialiste et orgueilleux, on les emmène dans le royaume de Dieu. La liturgie moderne, c'est exactement l'inverse. C'est une liturgie de prêtres ouvriers, dans laquelle on se détourne de Dieu pour se tourner vers les hommes, et comme ça ne marche pas, eh bien on se tourne de plus en plus vers les hommes, on épouse de plus en plus des attitudes vulgaires, c'est-à-dire qu'on épouse de plus en plus leurs passions au lieu d'élever leur intelligence, leur cœur, jusqu'à la connaissance de Dieu pour marcher en la présence de Dieu. Je termine. Ma conclusion sera celle-ci, je l'emprunte à un auteur contre-révolutionnaire. Je résume, que vos principes soient publics, que vos œuvres soient cachées. Abraham, en sortant de ce pays, rend public ses principes. Tout le monde voit qu'il vit pour autre chose que cette civilisation moderne de la Chaldée et qu'il vit pour Dieu, qu'il vit dans un autre monde que le monde moderne et orgueilleux. Nous verrons plus tard qu'il édifiera un autel, et même deux autels au Seigneur. Au contraire, ses œuvres sont cachées. Que font les libéraux? Exactement l'inverse. Pour se faire admettre du monde, pour entrer dans le monde, pour ne pas être combattu par le monde, ils cachent leurs principes et ils prétendent qu'ils seront plus forts en montrant leurs œuvres. On cache les principes d'opposition au modernisme, on cache la doctrine de Mgr Lefèvre et on organise de grands pèlerinages, que ce soit à Chartres ou à Rome, pour l'année prétendument sainte. Notre Seigneur a pourtant dit dans l'Évangile que votre main gauche ignore ce que fait votre main droite. Tant que nous n'aurons pas compris cela, nous ne pourrons pas faire le travail que Dieu nous demande. Nous devons non pas cacher nos principes sous prétexte qu'ils ne sont pas admis par le monde, nous devons au contraire les montrer, non pas dans un esprit de provocation, mais justement pour l'apostolat, parce que c'est cela qui sauve, et nous devons cacher nos œuvres, comme le bon Jésus dans la crèche s'est caché. Et lorsque dans sa vie publique il s'est montré en réalité assez peu, uniquement en Palestine et en Judée, un tout petit peu en Samarie. Par contre, sa doctrine était publique et bien publique. Voilà, mes bien chers frères, la leçon d'Abraham. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.